Bête, juste un mot de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Aujourd'hui, dans ce mot de tête, nous allons vous parler de nos amis les chats.
Moi, j'ai eu 3 chats et c'est vrai que c'est du câlin, de l'affection et beaucoup de tendresse. Un chat, ça a sa liberté.
Moi, les chats, je les adore parce que j'ai eu deux chats avant qui étaient très affectueux et très câlins. J'adore les chats.
Moi, j'aime bien les chats, mais dans les cartes postales ou... loin de moi, quoi. Ça me fait peur.
Ben moi, j'ai pas de chat, mais mes filles en ont. Et quand elles vont en vacances, c'est moi qui les garde. Et c'est vrai que c'est apaisant. Ça bouge pas trop. C'est dans un coin, mais on sait que ça écoute. C'est sympa.
Moi, j'ai eu un chat. Il est né en même temps que moi, en 71. Quand ma mère était à la clinique pour accoucher de moi, sa mère, mon chat, elle l'a mis au monde. Et mes parents l'ont appelé Pilou. Et c'est un chat que j'ai gardé pendant 11 ans.
Ben moi, j'ai pas tout temps encore. J'avais mon chat loustique que mon frère Daniel m'a donné. Il a vécu jusqu'à 19 ans. Et le vétérinaire, il m'a dit chapeau.
Les chats, finalement, c'est très reposant. Le Pilou, c'était un chat d'intérieur. Il sortait jamais, si ce n'est un mois quand on l'emmenait en vacances, où il campait avec nous. Il redevenait un peu sauvage, mais c'était chouette, quoi. Et on l'a jamais perdu. Quand je vois des chats dans la rue, ça me fait un peu du mal, parce qu'on se demande s'ils vivent bien, s'ils n'ont pas été mis dehors par des gens, et s'ils ont à manger régulièrement, s'ils ont... un endroit pour se loger, quoi. Voilà, c'est la question.
D'ailleurs, ces chats qui sont dehors, est-ce qu'ils sont gérés comme il faut? Est-ce qu'ils arrivent à vivre? Au fait, Marie a adopté un chat dernièrement et elle est passée par une association qui recueille les chats dans la rue.
Et si on allait lui demander comment ça s'est passé?
Allons-y.
Alors, Slooby est un... J'allais dire chaton, parce que dans ma tête, c'est toujours un bébé, mais pas du tout. Il a 3 ans maintenant, c'est déjà du bon gros chat. Il est noir et blanc. Donc, c'est ce qu'on appelle un tuxedo, je crois. Vous savez, les chats, on dirait qu'ils portent un costume, comme James Bond, et il a des petites chaussettes blanches. Et il a la particularité, Slooby, d'avoir la queue cassée. Donc, sa queue forme un angle droit. C'est sa petite marque de fabrique. Et il a des petites taches absolument adorables sur le visage, qui lui font comme une petite moustache. C'est un chat un petit peu spécial, qui a une histoire particulière et qui souffre de troubles anxieux, mais qui est un chat absolument adorable et qui se trouve être la mascotte du GEM Hobby Club LC38. Alors, j'ai rencontré Slooby. En fait, je savais que je voulais adopter un chat et je savais que je voulais que ce soit un chat d'une association. Il était hors de question pour moi d'acheter un animal. Bah, sur Grenoble, il y avait donc l'association École du Chat Libre qui existe, que j'ai contactée. Ils font les choses très sérieusement. J'ai été reçue en entretien. On m'a demandé si j'avais le budget, si j'avais le temps de m'occuper d'un chat, la superficie de mon appartement. Ils ne donnent pas un chat au premier venu. Ce vendredi-là, tous les chats avaient déjà été adoptés. Il restait juste un petit chaton. Une toute petite boule de poils prostrée dans sa petite cage. Et je m'approche et je dis, tiens, c'est qui celui-là? On me dit, non, celui-là, c'est compliqué. Enfin, il faudra être vraiment patient. Il a des problèmes. C'est un chat qui a des troubles anxieux. Il y a du gros défi avec ce chat. Je dis, bah, c'est parfait, j'adore ça, les défis. Et puis moi, c'est lui que je veux. Je voulais m'occuper, enfin sauver, entre guillemets, un animal. Donc je dis, si en plus, on me dit qu'il a des problèmes. Enfin, moi, j'étais prête à adopter celui qui avait trois pattes et un œil en moins. Donc des troubles anxieux, ça allait bien aussi, quoi. Il faut savoir que c'est lié à l'enfance et à l'histoire de Sloubi. Donc l'association, en fait, recueille des chats de la rue. Et Sloubi est un chat qui a vécu dans la rue, avec tout ce qu'on peut imaginer, le froid, la faim, peut-être aussi la soif. Et en plus de ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait la queue cassée. Ça, le vétérinaire a dit que c'était de naissance. Il est né la queue cassée. Mais il faut savoir que dans la nature, un chat, enfin un animal en fait, qui présente malheureusement un petit handicap, une petite différence, il est la plupart du temps rejeté par ses congénères. Et c'est ce qui s'est passé avec Sloubi, qui était de naissance, donc avec cette queue cassée, et plus petit, le plus petit de la portée. Il y en a toujours un petit, c'était lui. Et malheureusement, quand il essayait de téter ou de jouer avec ses frères et sœurs de portée, il était rejeté. Donc, c'est vrai que l'association, quand ils l'ont recueilli, il était vraiment très, très, très maigre, très malade. Il avait une infection aux oreilles, une infection aux yeux, sa queue cassée. Il était vraiment en mauvais état. Et donc, je pense vraiment qu'en le recueillant, l'association l'a sauvé, hein, comme de nombreux chats. Ils lui ont soigné les yeux, les oreilles, ils l'ont remplumé un petit peu, mais restait quand même ces troubles anxieux. Et ça, c'est moi qui ai dû le gérer, et on m'avait dit, attention, ce chat est un chat qui risque de passer toute sa vie sous un canapé, à avoir des terreurs, à ne pas vouloir socialiser. Et au début, c'est vrai que j'ai cru que c'est comme ça que ça allait se passer, mais à force de patience et de beaucoup d'amour, hein, appelons un chat, j'ai réussi à l'apprivoiser et à ce qu'il ait moins peur. Je sais qu'il fait une crise d'angoisse parce qu'il a une manière un peu spéciale de se gratter un petit peu compulsivement, mais comme peuvent le faire certains humains, hein, se gratter pendant une crise d'angoisse, c'est quand même un truc assez classique. Et il met ses oreilles un peu en arrière, il fait ce que j'appelle les yeux boules, les gros yeux écarquillés, et il est prostré. Il bouge plus, et si j'essaye de le prendre, il est tout mou. Enfin, il est vraiment très étrange, et ce comportement-là, voilà. Et moi, mon chat, ce qui lui fait du bien, c'est que je lui parle doucement, que je le caresse, et voilà, j'ai un ton de voix avec une voix un petit peu plus aiguë, je le caresse doucement, et il se calme, et petit à petit, je le vois se détendre, redresser les oreilles, reprendre des yeux d'une taille normale et puis continuer ces trucs de chat, quoi. Mais comme un humain, en fait, hein. Vraiment, les crises d'angoisse, si, j'espère que vous ne connaissez pas, mais ceux qui connaissent, généralement, parler à la personne gentiment, prendre un petit peu soin d'elle, ça soulage. Et aujourd'hui, on a une relation vraiment de confiance presque fusionnelle. Et quand il fait une crise d'anxiété, parce que ça arrive encore, je sais le calmer. Mais à l'inverse aussi, moi-même, je suis quelqu'un d'anxieux. Et quand moi-même, je fais une crise d'anxiété, le chat le sent et vient tout de suite me réconforter. Donc, c'est donnant-donnant. De manière générale, c'est vrai que les chats qui viennent de la rue ont besoin d'apprendre à socialiser comme ça, à se réhabituer aux humains, à ne pas en avoir peur et aussi à ne pas craindre les autres chats. Parce que dans la rue, c'est violent, quoi. Ils se battent, il y a des guerres de territoire, des guerres de gangs. Donc voilà, un autre chat, c'est pas forcément vu comme un copain. Mais là, ils se sont très bien entendus et ils ont une très jolie relation tous les deux. Donc je suis très fière de mes chats. Mais là encore, je voudrais souligner le fabuleux travail de l'association parce que honnêtement, je pense que dans la rue, à terme, Sloubi est un chat qui n'aurait pas survécu s'il n'avait pas été recueilli par les bénévoles de l'association. Ça, c'est clair. Il se serait fait manger, écraser ou il serait mort de faim, mais il n'aurait pas survécu, ça, j'en suis à peu près certaine.
Bon, il faut qu'on aille visiter cette association pour en savoir plus.
Allons-y.
Cette association, elle a pour objectif, elle a pour but de limiter la prolifération des chats errants dans toute l'agglomération de Grenoble, puisque les premières victimes de la surpopulation des chats, c'est les chats eux-mêmes.
Gino Lopez, vice-président de l'association L'École du chat libre de Grenoble.
Donc, pour éviter l'engorgement dans les fourrières et dans les refuges, on préfère stériliser les chats des rues, qui ne sont pas sociables, les laisser sur place, et les nourrir et les soigner tout au long de leur vie. Et en prêt, prélever, bien entendu, tous les chats qui sont sociables, abandonnés, et puis les chatons, effectivement, aussi, pour les mettre à l'adoption. Depuis cette année, on a fait un partenariat avec la SPA du Dauphiné, concernant donc, la prise en charge des chats sociables. Donc, c'est la SPA, maintenant, qui remplit cette mission. Et c'est nous qui avons la gestion de l'animal dans la ville. Et donc, depuis cette année, nous avons des bureaux partagés. C'était les nôtres avant. On les a cédés à la SPA. Et vous avez donc le bureau de la SPA qui est derrière vous et le bureau de l'école du chat qui est ici. Et concernant les chats sociables, vous avez maintenant la chatterie qui a été ouverte, qui se trouve sur la porte à côté. Là. Tout est regroupé. Voilà. Donc, ça a permis de concentrer les forces vives, on va dire, et d'être beaucoup plus performant chacun dans sa mission.
Pourquoi ce nom ?
Pourquoi école ? Pourquoi école du chat libre ? Pourquoi école du chat libre de Grenoble et de l'agglomération ? Ouais. Donc le mot école du chat, c'est dans le sens d'éduquer les mentalités à une nouvelle approche beaucoup plus humaine dans la gestion de l'animal dans la ville. Il faut remonter jusque dans les années 70 où l'association l'école du chat libre est née pour porter assistance aux animaux errants dans le cimetière Montmartre à Paris. Et comme il y en avait énormément, la ville de Paris avait décidé, via la Fourrière, de faire euthanasier tous les chats. Ça a créé un énorme tollé. Et donc, il y a une association qui s'est créée, qui avait donc pour mission, justement, d'expliquer aux gens, donc d'où le mot « école », c'est qu'il a fallu expliquer et éduquer aux gens qu'il était quand même préférable d'avoir une solution un petit peu plus humaine dans la gestion de la surpopulation féline plutôt que des euthanasies de masse. Donc, le mot « école », vient justement d'éducation, d'éduquer les gens et puis d'expliquer aux gens qu'il fallait mieux stériliser. Une fois stérilisés, identifiés, eh bien ils ont un droit de vie perpétuel sur le lieu qu'ils ont choisi de vivre. On n'a plus le droit de les euthanasier, on n'a plus le droit de les déplacer. D'où l'intérêt du chat libre. Et c'est donc l'école du chat libre de Paris qui a fait voter cette loi et on en est les représentants, nous, aujourd'hui, à Grenoble. Voilà.
Comment fait-on pour adopter un chat chez vous, et quels sont les critères à remplir pour accueillir un chat libre ?
Donc les conditions pour adopter un chat, eh bien, il y a d'abord un questionnaire de pré-adoption à remplir, puisqu'on veut savoir, avoir une petite idée de la personne qui fait cette démarche, donc, et puis aussi savoir dans quelles conditions l'animal va vivre, d'accord ? Donc il y a une petite sélection qui est faite au niveau du questionnaire. Ensuite, quand un rendez-vous est pris pour venir voir les chats, eh bien, on vous fait également remplir ce qu'on appelle un certificat de connaissance et d'engagement. C'est un document qui date depuis octobre l'année dernière. C'est assez récent. C'est pour porter à la connaissance des adoptants ce que ça représente en termes de coûts financiers, par exemple, adopter un animal. Parce que souvent, il y a des gens qui ne savent pas, mais quand on leur explique, eh bien, effectivement, ça dépasse leur budget. Donc effectivement, ce document qui est rempli, qui est signé, bien ça permet de porter à la connaissance plein de choses pratiques avant l'adoption. Ensuite, bien entendu, la loi s'applique. Vous avez un délai de rétractation de 7 jours une fois que ce document est signé. Et au bout de 7 jours, eh bien, si vous avez réservé un chat, bien, vous partez avec votre chat. Alors soit un chat adulte, soit un chaton. Voilà. Et puis pour répondre à la deuxième question, pour adopter un chat libre, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'un chat libre, normalement, c'est un chat qui vit dehors et qui n'est pas sociable. Ouais. Donc, comme il n'est pas sociable, eh bien, il y a peu d'échanges qui se font entre l'adoptant et l'animal. Vous voyez, c'est compliqué. Hein, le chat, il va vouloir chercher à se sauver, il peut vous griffer, voire vous mordre. Alors que si c'est un chat domestiqué, c'est déjà différent. Quand on parle de chat libre, c'est pour les chats qui vivent dehors, stérilisés, identifiés. Et quand on parle de chat sociable, ce sont les chats qui sont mis à l'adoption. Que ce soit des adultes, que ce soit des jeunes chatons. On a également des chats qui sont handicapés, à qui ils peuvent manquer une patte, à qui ils peuvent avoir des problèmes neurologiques, à qui ils peuvent avoir une maladie grave, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas mis à l'adoption. Comme ils sont passés chez le vétérinaire et qu'on sait ce dont ils souffrent, eh bien on les fait adopter avec des protocoles.
Combien de chats récupérez-vous par an ? D'où viennent-ils ? Combien sont adoptés ? Combien sont remis en liberté ? Pouvez-vous nous donner quelques chiffres et nous dire comment ça évolue dans le temps ?
Alors écoutez, nous depuis le début de l'année, on a déjà fait 277 entrées de chats.
Ah ouais.
Si on se base sur les chiffres de l'année dernière on a enregistré 347 chats. Parmi ces 347 chats, il y a eu 235 adoptions Et le reste, c'était des chats libres. Des chats libres qui ont été stérilisés, identifiés, vaccinés, testés et remis sur le lieu de la capture, comme la loi nous l'impose.
Comment ça se passe pour un chat dans la rue? Quels sont les problèmes qu'il rencontre et quelles nuisances cause-t-il?
Les chats, quand ils sont dans la rue, quand ils ne sont pas stérilisés, généralement, ils ont plutôt tendance à se remettre en meute, on va dire, hein, surtout quand c'est la période des reproductions. Donc, quand il y a la période des reproductions, puisque vous parliez de nuisance, eh bien, il faut savoir que les mâles, quand ils sont sous l'effet des effluves des femelles, eh bien, ils se battent entre eux. Ça fait du bruit parce qu'il y a des énormes vocalises qui sont pour impressionner, quand ils sont en chaleur, pour impressionner ses adversaires. Donc il y a d'énormes vocalises qui réveillent tout le quartier, généralement ça se passe la nuit. Il y a aussi un autre problème qui est non des moindres, c'est qu'ils ont plutôt tendance à uriner sur tout ce qui est poire verticale. Donc sur les murs, les portes, les pieds de chaise, les voitures, enfin voilà, des urines qui sentent très très fortes, donc ça génère pas mal de problèmes. Donc quand on ajoute donc ces odeurs, les vocalises, les bruits, les bagarres, les blessures qui s'affligent, eh bien ça explique aussi pourquoi on a plutôt intérêt à stériliser un maximum de chats dehors, comme ça on n'a pas ces problèmes-là. Et puis ils en subissent les conséquences, hein, parce que généralement ils s'affligent beaucoup de blessures. Alors ils se nourrissent comme ils peuvent, c'est-à-dire de ce qu'ils peuvent glaner en nourriture sur les poubelles. Parfois ils arrivent à attraper un lézard, une murène, enfin voilà, ils arrivent. On les trouve généralement en très mauvais état. C'est des chats qui souffrent l'été parce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à trouver de l'eau en abondance. Donc un chat qui ne boit pas au bout de 4-5 jours, c'est cuit. Hein. Et puis la nourriture, elle n'est pas de bonne qualité. C'est ça, hein, le problème. Hein. Donc on arrive à récupérer des chats qui sont complètement abîmés, avec un poil collant, amaigri, et puis déshydraté, quoi. Il faut savoir que les chats, ils ont un intérêt dans les espaces extérieurs, les espaces verts, parce qu'ils sont aussi là pour réguler certaines populations d'animaux qui sont invasifs. Notamment quand il y a beaucoup de rats, les souris, les mulots, etc. Donc, tous ces animaux, ils ont tous le droit de vivre, hein, on est bien d'accord. Hein, mais c'est comme tout, quand il y en a trop, ça pose des problèmes. Et le chat, ben lui, c'est un régulateur. Il régule. Et les rats, ils ont un système de reproduction qui est démultiplié. Ils se reproduisent énormément. Et les portées, c'est des grosses, grosses portées. Et il faut savoir que c'est là que le chat joue un rôle, c'est quand il y a beaucoup de naissances, et bien pour les chats c'est facile d'aller taper les petits. Donc on a plutôt intérêt à rester, à avoir des chats libres qui vivent en extérieur, qu'on soigne quand ils sont malades, qu'on nourrit quand ils ont besoin d'être nourris, et puis qui remplissent leur rôle de régulateur, plutôt que systématiquement les enlever puis les euthanasier. Vous voyez la différence là?
Comment faites-vous pour capturer les chats? Avez-vous des anecdotes à ce sujet?
Alors quand on capture les chats, on utilise du matériel spécialisé. Donc pour ce faire, on a ce qu'on appelle des trappes de capture. Ce sont des trappes munies d'un système qui permet de provoquer la fermeture de la porte quand l'animal est rentré à l'intérieur. Donc il suffit de le placer, de l'armer, de mettre de la nourriture et d'attendre que le chat vienne se prendre. Après, on a aussi du matériel pour attraper en grosse quantité, ce qu'on appelle des pièges, des trappes collectives. Donc c'est le même principe, mais en version XXL, de manière à faire rentrer 1, 2, 3, voire 4, 5 chats d'un coup. Hein, on appelle ça donc des trappes individuelles, collectives, de capture collective. Donc on a des bénévoles effectivement qui sur leur temps dévoués viennent déposer les trappes là où ils doivent les mettre. Et puis les anecdotes, on en a plein. Il y en a une, un sauvetage qu'on a fait sur un chat qui est tombé à l'intérieur d'un mur où il y avait un conduit. Et il est tombé du 10e étage et il a chuté jusqu'au 4e étage. Voilà, et donc il était dans la cloison enfermé, et pour le récupérer, il a fallu casser une salle de bain et une cuisine. Il y est resté 10 jours, on l'a nourri, on l'a surtout donné à boire en faisant descendre une équipe avec une corde du 10e jusqu'au 4e pour lui apporter à boire et à manger un petit peu. Ouais. Et ensuite, on a cassé la cloison du 4e étage, la salle de bain et la cuisine pour pouvoir le sortir.
Comment les chats sont-ils accueillis chez vous et que deviennent-ils après ?
Alors les chats, ils sont accueillis, donc nous on a une... Alors concernant l'accueil des chats, des jeunes chatons jusqu'à l'âge de 2 mois, eh bien ils sont accueillis chez nous ou en famille d'accueil. Ouais. Donc on est équipé pour ça, pour avoir gardé et nourrir et soigner des animaux, des jeunes animaux. Ensuite, quand ils ont 2 mois passés, on les amène chez le vétérinaire pour qu'ils soient identifiés et vaccinés, et on les transfère à la SPA du Dauphiné. Et une fois qu'ils sont à la SPA du Dauphiné, ils vont à la chatterie. Donc la chatterie, elle se décompose en 3 zones distinctes. Vous avez la zone quarantaine, où les animaux passent systématiquement en zone quarantaine avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie. Ensuite, vous avez la chatterie, où ils sont libres, où ils peuvent se promener, faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a une zone importante, c'est l'infirmerie. Donc c'est une zone qui est hermétique, qui est étanche entre les différentes parties, pour pas qu'il y ait des mélanges de maladies sur des chats qui sont sains. Donc quand il y a un chat qui est malade, eh bien, il va à l'infirmerie. Il va chez le vétérinaire, mais il est isolé en infirmerie. Donc 3 zones, infirmerie, quarantaine et chatterie. Dès l'instant qu'ils sont à la chatterie, c'est les chats qui sont systématiquement proposés à l'adoption. Et les chats libres, eux, ils sont relâchés à l'extérieur. Donc les chats sont capturés, ensuite ils sont emmenés chez le vétérinaire, avec un rendez-vous bien sûr. Ils sont stérilisés, identifiés. On implante dans le cou du chat une puce électronique qui donne donc l'identification du chat. Et nous, en plus de ça, concernant les chats libres, on leur fait tatouer un S dans l'oreille pour dire qu'ils sont stérilisés. D'accord. Donc quand vous voyez un chat dehors qui a un gros S dans l'oreille, ça veut dire que c'est un chat qui est stérilisé. Et ensuite, après une période plus ou moins longue de récupération, eh bien, ils sont remis sur le lieu de la capture. Ça, c'est la loi, les chats libres. Hein. On les relâche toujours sur le lieu où ils ont été capturés. On n'a pas le droit de les déloger. Et les chats sociables, ou les jeunes chatons, même s'ils ne sont pas sociables, les chatons, on arrive facilement à les sociabiliser. À ce moment-là, ils viennent à la chatterie, et de la chatterie, ils partent systématiquement à l'adoption.
À quoi ça sert, la stérilisation ?
La stérilisation, ça sert à plus faire de bébés. Donc quand un chat libre, enfin un chat errant à l'extérieur, il arrive à faire 2 à 3 portées par an. Et donc 3 portées par an, ça veut dire c'est entre 15 et 16, 17 chats supplémentaires. Ça se reproduit beaucoup. En sachant que les premières portées de l'année, quand les chatons grandissent, quand ils arrivent à l'âge de 6 mois, s'il y a des femelles, elles-mêmes, elles peuvent commencer à reproduire. Donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à endiguer si on ne fait rien à la base. Donc la solution, c'est justement pour limiter toute l'arrivée de ces bébés chatons, il y a ce qu'on appelle la stérilisation. Et en stérilisant, on évite des surpopulations de chats, on évite que les fourrières soient complètement encombrées, puisque quand il y a trop de chats qui ne sont pas adoptables, personne n'irait adopter un chat qui n'est pas adoptable. Donc ces chats-là, plutôt que les euthanasier, on préfère les laisser dans la nature, mais il faut les stériliser. Il faut savoir qu'une opération sur une femelle, c'est quand même plus lourd que pour un mâle. Le mâle, il passe par les voies naturelles. La femelle, c'est une vraie opération interne avec des points, etc. Donc on est obligé de les garder plus longtemps pour qu'ils récupèrent avant de les relâcher. C'est sûr qu'aujourd'hui, faire stériliser un animal, c'est quelque chose qui coûte cher, hein, puisque environ pour une femelle, il faut bien au minimum dépenser 160 € pour la stérilisation d'un animal. Hein. C'est un minimum, hein, 160 €. Et l'identification qui est obligatoire, puisque ça depuis 2012, depuis le 1er janvier 2012, le fait de posséder un animal, que ce soit un chien ou un chat, vous êtes obligé de le faire identifier. Donc l'identification, c'est la puce électronique qui est mise dans le cou. Et cette puce vaut facilement 60 €. Quoi. Donc quand on accumule le coût de la puce électronique qui est obligatoire, plus la stérilisation, vous voyez, on atteint déjà pas loin des 250 €. C'est très cher. Donc c'est pour ça que les gens, malheureusement, ne le font pas faire.
Qui sont vos partenaires dans ce travail ? Vétérinaires, police municipale, habitants ? Et comment êtes-vous financiers ?
Alors, nos partenaires, c'est on travaille beaucoup avec la communauté de communes de Grenoble, donc ce qu'on appelle la métropole. Hein. Donc ils nous aident un petit peu financièrement. On a également des aides de la ville de Grenoble et certaines petites communes nous aident à leur hauteur, bien sûr. Hein. Et puis, nous, on a notre réseau d'adhérents. Donc, on a nos adhérents qui payent une cotisation à l'école du chat. Donc, ça aide aussi à financer la stérilisation, les soins et puis également l'achat de la nourriture. Parce que donc ça représente un coût qui est énorme pour nous, hein, puisque c'est un budget d'environ 12 000 € par an. Hein. Donc 12 000 euros de nourriture, ça ne se trouve pas comme ça sous une pierre. Hein. Il faut travailler, il faut, voilà. Et puis toutes nos actions sont faites grâce à nos bénévoles. Si on n'avait pas de bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Hein. Là, il y a le bureau qui fonctionne tous les après-midi en ce qui concerne l'école du chat. Mais nos activités, elles sont dehors, sur le terrain. Nous avons des veilleurs sanitaires. Les veilleurs sanitaires, eux, c'est ceux qui vont sur les points de nourrissage pour nourrir les chats, entretenir les abris et puis surveiller qu'il n'y a pas d'autres chats qui arrivent. Quand il y a d'autres chats qui arrivent, il faut les capturer, les stériliser, etc. D'accord ? On a également les piégeurs-piégeuses. Donc, c'est ceux qui sont chargés de trapper les chats. Donc, c'est malheureusement ce qui nous manque le plus. Hein. Il nous manque des gens motivés dans cette tâche-là et autonomes surtout. Donc, il faut un véhicule, il faut transporter une trappe, ça fait vite fait 4-5 kilos. Quand vous avez un chat qui fait 5-6 kilos dedans, ben vous avez 10 kilos au bout de bras qu'il faut porter. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais bon. Enfin, on arrive à avancer un petit peu, et c'est grâce aux bénévoles. S'il n'y avait pas de bénévoles, on pourrait pas. S'il n'y avait pas ce tissu associatif, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Hein. C'est juste impossible, hein. D'accord ? Et chez nous, on n'a pas de salariés, on n'a que des bénévoles. Donc on a nos charges, bien sûr, les charges du bureau à régler. Cette année, on a acheté un véhicule sur les fonds propres de l'association, d'accord ? Et puis on arrive comme ça à avancer tout au long de l'année, comme ça, voilà. Donc nos partenaires également, on peut les citer, puisqu'on a aussi la fondation 30 millions d'amis qui nous aide aussi beaucoup. Là, sur la partie chat errant, ils nous aident avec des bons de stérilisation et puis en nourriture aussi. Hein, donc pour acheter de la nourriture en grosse quantité, parce que je vous dis, on passe environ 300 kilos de croquettes par mois juste pour les chats des rues. Hein. Donc c'est pas parce qu'ils vivent dehors qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de la nourriture de qualité et en quantité. D'accord ? Donc on fait très attention à ce que ces chats qui vivent dehors, qui sont avec des conditions pas faciles, bah, qu'ils puissent au moins manger et boire comme il faut, voilà. Et puis éventuellement les soigner quand ils sont malades. On a ce qu'on appelle plusieurs vétérinaires, enfin on a un vétérinaire référent, et on a aussi, on peut compter sur un réseau de vétérinaires qui nous aident, bien sûr. Donc ils nous pratiquent ce qu'on appelle des tarifs associatifs, parce que pour les chats des rues, de toute manière, ces chats des rues, c'est une population de chats qui de toute manière n'irait jamais voir le vétérinaire si nous on les capturerait pas et on les emmènerait pas. Donc, ce n'est pas une charge de travail qu'on enlève aux vétérinaires au profit d'un bénéfice propre. C'est des chats qui, de toute manière, ne verraient jamais le vétérinaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils nous aident, qu'ils nous font ce qu'on appelle des tarifs associatifs. Sinon, ça ne sortirait pas. Et donc, on arrive à faire donc la stérilisation, l'identification, les vaccins parfois. Et puis surtout, ce qu'on a beaucoup fait cette année, parce qu'on a vu qu'ils étaient beaucoup malades avec des puces, donc il a fallu tous les traiter pour les puces, et la gale des oreilles. Donc la gale des oreilles, c'est un acarien qui vient se positionner dans les oreilles et qui bénéficie de la chaleur et de l'humidité qui lui convient pour se reproduire. Et donc ça génère des otites, ça génère beaucoup de problèmes. Et donc cette année, on a remarqué que beaucoup de chats souffraient de ça. Donc il a fallu les soigner pour la gale des oreilles, pour les puces et les vers. Ouais.
Si je trouve un chat de la rue, je peux le ramener ici, quoi.
Quand on trouve un chat dans la rue, il faut prévenir la police municipale de la ville en question, si c'est Grenoble, Saint-Martin-d'Hers, Fontaine, ouais, etc. Et ensuite, là, c'est la police municipale qui prévient la fourrière, chenille de service, qui vient récupérer l'animal. Et ensuite, cet animal est emmené. Alors, deux cas de figure, soit il est identifié, soit il n'est pas identifié. S'il est identifié, eh bien, on a le nom du propriétaire. Donc, à ce moment-là, la fourrière appelle le propriétaire pour qu'il vienne récupérer son animal. Et s'il n'est pas identifié, eh bien, la fourrière, après le délai légal de 8 jours, eh bien, il stérilise l'animal, il l'identifie et il passe à l'adoption, à la SPA du Dauphiné ou à la PAGI, qui est un autre refuge du côté de Domaine. Donc, les chats, ils ne sont pas euthanasiés, hein, contrairement à ce que certains peuvent dire. Donc, il faut bien... Un chat sociable, quand il est perdu, si c'est un chat gentil que vous prenez dans les bras, il faut dire qu'il est forcément à quelqu'un. Un chat un chat libre, vous ne le prenez pas dans les bras. Hein. Si vous prenez un chat dans les bras, c'est qu'il est forcément à quelqu'un, c'est que c'est un chat sociable. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le cherche, potentiellement. Donc Comme vous ne pouvez pas le garder chez vous, le mieux, c'est de faire la procédure. Cette procédure, on appelle la police municipale de la ville en question et de lui dire d'appeler le service, chenille service, pour qu'il vienne récupérer le chat. Il vienne rapidement, hein. Il récupère le chat et ensuite, c'est ce que je vous dis, il est identifié, on prévient le propriétaire, il n'est pas identifié, eh bien on le garde 8 jours, on le stérilise, il est identifié et il passe à l'adoption.
Avez-vous quelque chose à ajouter ou un message à faire passer?
Alors, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Nous, on se bat depuis très longtemps pour la stérilisation obligatoire. Nous, ça fait 20 ans que l'on fait environ entre 300 et 400 stérilisations par an. Depuis 20 ans, d'accord? Et on constate qu'il y a toujours autant de chats. Donc la question qu'on se pose, c'est bah, d'abord, si on n'avait rien fait, qu'est-ce que ça serait? Heureusement qu'on a fait 400 stérilisations par an, d'accord? Ça fait plus de 8000 en 20 ans. Hein. Mais on souhaiterait, et on se bat pour ça, pour qu'il y ait une stérilisation obligatoire.
Tous les problèmes qu'on rencontre, qu'on va attraper une maman avec des bébés, des bébés chats, des chatons, c'est que c'est des chats, les mamans, elles ont été données bébés. Et ces bébés ont grandi, c'est des adultes.
Marie-Noël Chanel, présidente de l'association L'école du chat libre.
Et les gens ne sont pas conscients de faire stériliser l'animal, ils n'ont pas de papier, ça a été donné de droite à gauche, et bien souvent c'est là qu'on trouve le problème de ramasser la maman et les chatons. C'est des chats qui ont été donnés de main à main. Ils ont cru bien faire d'aller ramasser sur internet un chat qui était à donner ou un chaton, et voilà après le résultat du fait qu'ils ne sont pas stérilisés. Et ben ça se reproduit. Et c'est là qu'il faudrait avoir plus de contrôle, mais malheureusement, on arrive déjà à peine à couvrir les demandes que nous avons. Et c'est là, même les pouvoirs publics, qui devraient verbaliser tous ces gens qui distribuent gratuitement ces chatons de droite à gauche. Voilà, c'est ça, on n'en arrivera jamais.
Dans le cadre de nos actions sur le terrain, on a des points de nourrissage qui sont installés au cœur même de certains instituts. Alors, il y en a un peut-être que vous connaissez, c'est l'institut ESTI, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, ESTI, on a un petit jardin félin à l'intérieur, on a capturé et stérilisé tous les chats qui s'y trouvent, on a mis en place des cabanes à chats, et maintenant, ce sont les résidents qui gèrent il y a même des chats qui rentrent à l'intérieur de l'institut, d'ailleurs. L'un qui est hyper sociable, qui s'est sociabilisé, et qui fait la fierté des employés et des résidents, hein, d'accord. On a aussi placé des animaux dans des maisons pour personnes âgées, donc des vieux chats, plutôt sociables, très cool, on va dire, hein, et ça a changé le quotidien des personnes. Et puis on avait un projet pour cette année, malheureusement dans le cadre du projet participatif de la ville de Grenoble, un projet qui n'a pas été retenu, c'est dommage. Ce projet participatif, c'était de mettre en lumière des animaux qui sont invisibles, comme des chats qui sont âgés, sociables, âgés, handicapés, et on voulait justement les mettre en relation avec des populations de personnes qui sont en situation de handicap, physique ou moteur, et aussi avec des personnes atteintes de maladies graves comme Alzheimer, et puis aussi créer des ateliers auprès du jeune public, des enfants des écoles élémentaires. C'est un beau projet. Et c'est quelque chose de très très bien, puisqu'on a mis, nous, par expérience, puisqu'on le fait déjà, des personnes atteintes d'Alzheimer avec un chat, et ces personnes-là, elles changent complètement. C'est-à-dire que dès qu'elles sont en contact avec un animal, eh bien, elles s'ouvrent, et elles ont la mémoire qui revient, et puis qui se met à parler, et qui vous dit, ben moi, quand j'étais jeune, j'avais un chat de telle couleur, c'était un mâle, c'était une femelle, il s'appelait comme ci, comme ça, et ils ont un moment de lucidité, dès qu'ils ont un animal dans les mains.
Merci aux bénévoles de l'école du chat libre pour leur accueil et cet échange très chat heureux.
Merci à Marie pour son témoignage.
Et merci aussi à Pilou,
Loustic,
Ruby,
Fred,
Oscar,
Socrate,
Newton,
Yota,
Maiko,
Predator,
Gawette,
Milka,
Miquette,
et à toutes les minettes de la rue et tous les matous d'Internet.
Si vous voulez adopter un chat, vous pouvez contacter la SPA ou l'école du chat libre partout en France.
Merci pour votre écoute et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur lavoisdesgens.fr, rubrique sans mot de tête.
Sans mot de tête, la radio du gène.
La radio du gène, sans mot de tête. La radio qui dit ce qu'elle a dans la tête.
Venez nous écouter, on a plein de choses à vous raconter.